Radio Okapi.
Le journal Noëlla Lozitu Kabambi.
Le gouvernement de la RDC a appelé à agir vite et efficacement pour stopper l'avancée du M23 et ses alliés du RDF. Cet appel émane du comité laïque de coordination de l'Église catholique section Nord-Kivu. Dans un communiqué publié ce dimanche, le CLC Nord-Kivu craint que la progression du M23 dans le Grand Nord entraîne une probable coalition entre ce mouvement, l'ADF et le groupe armé Zaïre, aujourd'hui actif dans la province de l'Ituri. Martin Fayulu appelle les Congolais à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité nationale telle que léguée par les colons en 1960. L'opposant congolais a lancé cet appel dans sa déclaration ce dimanche à Kinshasa à l'occasion de la célébration des 64 ans de l'indépendance de la RDC. Professeur Kabeya Chikuko, enseignant des sciences économiques dans plusieurs universités de la RDC, est notre invité. Il reconnaît que le pays, la RDC, a fait quelques pas en arrière depuis l'époque de son accession à l'indépendance. Bonsoir à tous. Au Nord Kivu, le comité laïque de coordination CLC, une organisation de l'Église catholique, appelle le gouvernement à agir vite et efficacement pour stopper l'avancée du M23 et ses alliés du RDF. Dans un communiqué publié ce dimanche, le CLC demande au gouvernement congolais d'engager des actions concrètes sur le plan opérationnel, logistique et communicationnel au regard de l'aggravation de la situation sécuritaire sur le terrain. Le comité laïque de coordination redoute qu'avec la progression des rebelles vers le nord du pays, il y ait une probable coalition entre le M23, les rebelles de l'ADF et le groupe armé Zaïre, aujourd'hui actif dans la province de l'Ituri, ce qui pourrait, selon le CLC, embraser toute la partie est de la RDC et remettre en cause les efforts du gouvernement et de ses partenaires, dont la MONUSCO. Le responsable du comité laïque de coordination au Nord Kivu, Jackson Kitambala Walasa, explique au micro de Gabriel Wamenia.
Il faut que le gouvernement prenne les choses au sérieux parce que avec la détermination qu'on voit dans le chef du M23 qui veut à tout prix avancer vers le Grand Nord, nous pensons qu'il y a un grand danger que ces gens-là puissent se joindre aux EDF, les M23 et les EDF. De la même façon, il y a miliciens Zaïre qui sont dans l'Ituri et qui ont de lien avéré et prouvé par les experts des Nations Unies avec l'Ouganda. Et nous sommes en train d'alerter les dirigeants de faire très attention avec cette situation et d'engager des actions sérieuses qui vont empêcher cela parce qu'il y a risque que ces gens-là puissent étendre cette guerre dans tout le Grand Kivu, mais aussi dans toute la Grande Orientale. Si on ne fait pas attention, nous pouvons nous retrouver avec un pays balkanisé et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer.
Entre-temps, sur le terrain, toujours au Nord Kivu, à Kalmi ce dimanche 30 juin, sur toutes les lignes de front dans les territoires de Masisi et Nyiragongo. Hier samedi, des combats ont opposé le M23 appuyé par l'armée rwandaise aux combattants à Wazalendo, un certain général autoproclamé Maachano Arimaka, dans le groupement des Oufamandu Premier, chefferie des Baoundé, territoire de Masisi. Les sources de la société civile dans la chefferie des Baoundé affirment également que des tirs sporadiques qui n'ont duré qu'une dizaine de minutes ont été entendus ce dimanche matin dans le secteur de Kimoka au nord-est de la cité de Sake, toujours sous occupation du M23. Dans le territoire de Nyiragongo, la situation reste calme et chaque belligérant maintient et consolide ses positions selon la société civile locale. Dans l'ouest du pays, dans la province du Kwilu, le nombre des décès enregistrés parmi les déplacés de Kwamouth vivant à Bandundouville ne fait que s'accroître. À ce jour, on compte déjà près de 100 morts parmi les déplacés hébergés au site de Malebo, selon le président du comité de ces déplacés. Ces personnes en détresse sont dépourvues de tout et ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire. Pour le ministère provincial des actions humanitaires du Kwilu, la crise de Kwamouth est oubliée par le gouvernement congolais qui normalement devrait venir en aide à toutes ces personnes. Irène Bomaluzolo nous fait le point.
Les conditions de vie des déplacés de Kouamouth vivant aux entrepôts du marché central de Malebo à Bandundouville ne cessent de se détériorer. Il s'agit de ceux qui ont fui les atrocités de la milice Mobondo à Kouamouth à la suite du conflit intercommunautaire dit Tekeyaka. Déjà 97 décès sont enregistrés parmi eux depuis le début, rapporte leur président François Taboukou. Cela à cause de l'absence de prise en charge alimentaire et sanitaire adéquate, malgré les multiples appels à l'aide sans réponse holistique. Jérémy Biquet, le directeur de cabinet du ministre provincial des actions humanitaires du Kwilu, parle d'une crise humanitaire oubliée par le gouvernement alors que la situation reste préoccupante.
C'est une crise oubliée. C'est une crise oubliée parce que les interventions n'ont pas suivi, n'ont pas été à la hauteur des besoins. Ça fait 2 ans, nous avons encore des personnes qui n'ont pas des moyens de subsistance. Nous avons des cas de maladies qui ne sont pas prises en charge dans cette condition. On devrait les accompagner, on devrait les soutenir pour qu'ils puissent se réintégrer même dans la vie courante.
D'après le ministère provincial des Affaires humanitaires qui redoute les pires, le Kwilu compte à ce jour plus de 36 000 personnes déplacées vivant notamment à Bandundouville, à Kikwit et dans les territoires de Bagata. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
L'opposant Martin Fayulu appelle les Congolais à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité nationale telle que léguée par les colons belges en 1960. Il lance cet appel dans sa déclaration faite ce dimanche à Kinshasa à l'occasion de la célébration des 64 ans de l'indépendance de la RDC. Par ailleurs, le candidat malheureux aux présidentielles de 2018 et 2023, Martin Fayulu, prône la tenue des élections transparentes et apaisées. Il se dit persuadé que ce genre de scrutin donneront au pays des dirigeants légitimes et surtout capables d'assurer le bien-être de la population congolaise. Les propos de Martin Fayulu sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective.
Toujours à l'occasion de la célébration de la 64e année de l'indépendance de la RDC, en Ituri, la nouvelle société civile du territoire de Mambasa encourage les FRDC à continuer à défendre l'intégrité du pays, aujourd'hui envahi par les M23 RDF et les ADF. Cette structure a lancé cet appel au cours d'une rencontre avec ses membres ce dimanche à Mambasa Centre. Selon la nouvelle société civile du territoire de Mambasa, le sens du patriotisme doit caractériser chaque Congolais, comme Lumumba et ses compagnons l'ont démontré afin d'arracher la souveraineté du pays aux mains des colons belges. Son président Jospin Paluku est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous mettons en garde toute personne animée de mauvaise foi qui voudrait se transformer à des faux Wazalendo afin de ternir l'image de l'autodéfense. Un vrai Wazalendo, c'est celui qui se donne l'engagement de pouvoir défendre son terroir, notamment son village, sa chefferie ou son territoire et en général le pays tout entier. Un vrai Wazalendo ne se donne pas au pillage des biens des particuliers, moins encore au massacre de la population.
Pendant ce temps, ce 30 juin, le président de l'Assemblée provinciale du Maniema appelle les Congolais à s'arrêter pour évaluer d'où ils viennent, où ils sont et surtout où ils vont. C'est pour se fixer la conduite à tenir pour le développement de la RDC. Le député provincial Claude Makonga Toboka Iki est au micro de Florence Kizalunga.
Je ne peux terminer ces mots sans penser aussi aux martyrs de l'indépendance de ce pays en ce mois de juin
dont la journée du 30 est consacrée en mémoire des dignes fils de ce pays qui se sont sacrifiés pour que notre chère nation accède à sa souveraineté. Cette journée est un moment fort pendant lequel les Congolais doivent s'arrêter pour évaluer d'où nous venons, où en sommes-nous et où allons-nous. Cadre de la province du Maniema, la journée du 30 juin devait nous interpeller tous, car après 36 ans de son existence en tant que province, nous devons être à mesure d'évaluer les avancées enregistrées et les régressions observées afin de nous fixer la conduite à tenir pour le développement de la province. Au nom de l'Assemblée provinciale du Maniema et au mien propre, je souhaite à toute la population du Maniema bonne fête de l'indépendance.
Et puis, notez que la ville de Kananga au Kasaï central, appelée autrefois Luluabourg, avait été ciblée en 1957 par les colons belges pour être la capitale de la RDC. Ils soutenaient que la ville est au centre du pays et peut mener partout en RDC. Les bâtiments adaptés à une ville capitale ont même été construits en prévision de cette démarche, mais qui a échoué après l'indépendance et la prise de pouvoir par feu le maréchal Mobutu. L'historien professeur Samuel Tijouke déplore le fait que certains de ces édifices importants à Kananga sont actuellement dans un état d'abandon. D'autres ont même disparu, comme le bâtiment où la première constitution a été élaborée, la constitution dite de Luluabourg. Pour lui, les autorités ne doivent pas oublier cette belle ville, Kananga, qui aujourd'hui risque de disparaître à cause des érosions. Professeur Samuel Tijouke est avec François Kadima.
Luluabourg, actuellement Kananga, pour les Belges, ça devrait être la capitale du Congo belge, actuellement la République démocratique du Congo. Les Belges ont bâti des bâtiments en miniature de certains bâtiments administratifs de Kinshasa. Luluabourg était compartimenté. Il y avait des quartiers pour les Noirs et des quartiers pour les Blancs. Après l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu le coup d'État de Joseph Désiré Mobutu en 1965. Mobutu a considéré les Kasaïens comme les opposants. C'est ainsi que nous n'avons pas pu bénéficier de cet avantage que Kananga devienne la capitale du Congo. Pour le moment, la ville risque de disparaître à cause des érosions. Les Belges avaient fait autour de certains quartiers ce qu'on appelait les ceintures de sécurité.
Les agriculteurs de la province du Haut-Katanga, contrairement aux années précédentes, ne bénéficieront pas cette fois-ci de la subvention en intra du gouvernement provincial. Annonce faite jeudi dernier à l'Assemblée provinciale par le gouverneur du Haut-Katanga lors de la présentation de son programme d'action en vue de l'investiture de son gouvernement. Pour Jacques Kiaboula, cette décision est la conséquence du changement climatique qui affecte non seulement le Katanga, mais aussi plusieurs pays de l'Afrique australe. Suivant le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, dans cet extrait sélectionné par Jean Gandou.
Étant donné les défis climatiques auxquels notre province et les pays de l'Afrique australe sont confrontés, le remboursement des bénéficiaires de la campagne agricole 2022-2023 risque de ne pas répondre à nos attentes. La présente situation pourrait compromettre notre aptitude à constituer des stocks adéquats en vue de prévenir d'éventuelles pénuries de farine de maïs à l'avenir. Pour remédier à cette situation, votre gouvernement prévoit de suspendre la subvention en intrant agricole pour la campagne 2024-2025, mobiliser des fonds pour l'achat de maïs, grains sur le marché local et international, et ainsi garantir un approvisionnement suffisant. Rétablir la subvention pour la campagne agricole 2025-2026. L'accroissement de la production agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire est envisagé par la promotion des techniques d'irrigation visant à contrer les perturbations climatiques. La promotion des industries manufacturières et l'établissement d'un climat de coopération solide avec les provinces et les pays voisins pour favoriser des échanges commerciaux, notamment dans les secteurs agro-pastoraux.
Notons que Jacques Kiaboula a présenté ce programme à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avant sa convocation à Kinshasa par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Parlons éducation formelle. En RDC en général, la clôture officielle de l'année scolaire 2023-2024 devra intervenir le mardi 2 juillet par la remise des résultats scolaires aux élèves. En Bandaka, les préfets des écoles secondaires ont lancé depuis samedi une campagne de lutte contre les inscriptions frauduleuses. Une des causes de la baisse de la qualité de l'enseignement, ont-ils reconnu, et dont ils sont aussi accusés d'être responsables. Ils l'ont dit à l'issue de leur réunion de clôture et d'évaluation des activités annuel. Basile Moussebi, coordonnateur des préfets de Mbandaka, revient sur la stratégie adoptée au micro de Paul Richard Malengela.
Par rapport à ça, nous venons de prendre une décision selon laquelle nous allons mettre fin au passage frauduleux des classes. L'enfant qui a échoué dans telle école, dans telle classe, fini. L'enfant ne peut plus avoir accès à une classe supérieure si nous préfets nous nous mettons ensemble.
Vous le dites, mais comment concrètement vous allez contrôler ?
Les instructions sont très claires. Je vais parler du palmarès, parce que c'est là où il y a la clé de ce que nous allons prendre comme disposition. Quand chaque préfet se met à donner un palmarès sincère, que tel enfant a été dans telle école, il a à la fin de l'année scolaire une mention réussite ou échec, c'est fini. Et le palmarès circule dans tous les bureaux gestionnaires. Il n'y aura pas un parent qui viendra jouer avec la mention qu'on a déjà donnée. L'enfant a échoué. Quand il vient pour l'inscription, le palmarès va témoigner que l'enfant a échoué. Il ne peut plus être accepté à une classe supérieure l'année prochaine.
Actualité internationale.
En Mauritanie, le président sortant est largement en tête après le dépouillement d'environ 90% des suffrages exprimés lors de l'élection présidentielle d'hier samedi. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, un militaire de carrière de 67 ans, détient plus de 55% de voix sur un taux de dépouillement d'environ 90% selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante CENI qui publie en continu bureau par bureau les résultats du scrutin. Le principal opposant, le militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, 59 ans, pour leur deuxième avec environ 22% de voix, a déclaré ce dimanche au cours d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de ce scrutin. Il accuse la CENI d'être instrumentalisée par le pouvoir.
L'invité.
Professeur Kabeya Chikuku, enseignant des sciences économiques dans plusieurs universités du pays, se remémore la date de l'accession de la RDC, alors Congo, à l'indépendance. Lors d'une interview accordée à Radio Okapi, il reconnaît que le pays a fait quelques pas en arrière depuis cette époque. Toutefois, il encourage les Congolais à travailler avec ardeur pour combler ce retard. Professeur Kabeya Chikuku répond aux questions de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, professeur Kabeya Chikuku.
Bonjour.
Quel souvenir gardez-vous encore de la date du jeudi 30 juin 1960 ? Et à l'époque, vous aviez quel âge ?
À l'époque, j'avais 17 ans. Jeune adolescent, congolais, collégien, et j'étais au Kassai.
Précisément dans quelle cité, quelle ville ?
En Gandajika. Ça me rappelle le... C'était une journée mémorable, parce qu'on ne savait pas, on ne s'imaginait pas que le soleil pouvait se coucher ce jour-là. J'en étais conscient, j'ai observé le soleil, il s'est quand même couché. Mais c'était une journée mémorable, parce que nous avons suivi par la radio tout ce qui se déroulait à Léopoldville, et depuis l'arrivée du roi Baudouin, mais je peux dire, même avant l'arrivée du roi Baudouin, les semaines qui précédaient, les deux semaines qui précédaient, étaient des semaines intenses, dont nous gardons un souvenir très attachant.
Professeur, quels sont, selon vous, les principaux facteurs ayant conduit à l'indépendance de la RDC, alors Congo ?
Principaux facteurs, je crois qu'il y en a un qui est au devant de la scène, c'est que nous étions au sortir du plan décennal. Parce qu'il y a eu un plan décennal qui a commencé en janvier 1949 et qui a été exécuté jusqu'à janvier 1958. Le plan décennal. Ce plan décennal a été celui qui a construit le Congo, les infrastructures, les bâtiments, ainsi de suite. Qui a construit des écoles, qui a construit des hôpitaux, qui a construit 36 choses. Mais c'était grandiose, c'était immense. mais c'était insuffisant pour les Congolais. Les Congolais avaient besoin de leur propre liberté, ils avaient besoin de leur propre souveraineté pour peser dans la balance, dans la marge collective de construire notre propre destin, un destin de grande nation et d'un peuple libre.
Si on vous demandait d'adresser un petit bilan des 64 ans de l'indépendance de la RDC sur les plans politiques, économiques, voire sociaux, que diriez-vous?
Je dis, il y a des pans entiers où nous sommes descendus. Mais cela ne doit inquiéter personne, surtout pas la jeune génération, parce que la durée sur laquelle un peuple peut se reprendre et reprendre son destin en main, cette durée n'est pas la durée à confondre avec la durée d'un individu, avec la vie d'un individu. Les peuples comptent des siècles. Les peuples comptent des demi-siècles. Les peuples comptent des décennies.
Professeur Kabeya Tshikuku, nous vous disons merci.
Et c'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Mimi Kindou dans une coordination de Alain Irung. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous laisse en compagnie de l'émission Okapi Sport avec Kanish Mukongo et Vanessa Kongolo.